les médias francophones publics. RTBF.
Ici Radio-Canada. France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérad.
Et bonjour à tous, bienvenue à Essaouira au Maroc où nous sommes ce week-end. Reportage, rencontre et musique pour cette émission spéciale au cœur de l'été. Voici le sommaire depuis la plage à l'entrée de la Médina, le poumon de cette ville marocaine. Il sera question de la musique gnawa aux racines africaines avec un grand maître du genre, le Mahalem Abdeslam Ali Khan. Nous irons aussi sur le toit d'un riad pour le club francophone qui croisera la chanteuse malienne Fatoumata Diawara et le Mahalem Hassan Boussou. Au cours de cette émission entièrement en déambulation, nous passerons devant l'Institut français qui porte la culture francophone ici à Essaouira. Et puis nous ferons un détour par la France chez l'académicien Éric Orsena pour un entretien passionnant sur les moustiques. Vous ne verrez plus cet insecte de la même façon après cette émission.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Guérad.
Et on commence avec notre série Un auteur, une ville, avec l'écrivain et artiste marocain Mahi Binbin, auteur de plusieurs romans, dont Le Fou du Roi, paru chez Stock. Bonjour Mahi Binbin.
Bonjour Emmanuel.
On est au cœur de la Médina, avec plein d'enfants là qui sont autour de nous. Il y a un endroit emblématique pour Essaouira.
On est à la Scala. La Scala, c'est les fortifications de la ville. C'est l'endroit qui protégeait la ville. Ça a été fait par le sultan Mohamed Ben Abdallah. Il a fait appel à un architecte, un ingénieur français qui s'appelle Théodore Cornu, qui est un disciple de Vauban. Si vous allez à Saint-Malo, vous allez voir un peu la Scala.
Oui, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que Cornu s'est inspiré des fortifications de Saint-Malo.
Exactement.
Et il y a un lien direct entre Saint-Malo et Essaouira.
Moi, je ne comprends pas pourquoi ces deux villes ne sont pas jumelées. Parce que quand j'étais à Saint-Malo,
vrai, pourrait, oui.
À étonnant voyageur, je me suis senti à Essaouira, chez moi, ici.
Alors, on va passer là, Mahi Binbin, sous un porche, une porte en fait, une porte d'entrée, ici à la Scala, à Essaouira. Essaouira qui se trouve à 2 heures de Marrakech, au bord de l'océan Atlantique. C'est une ville donc fortifiée et c'est une ville qui a une véritable histoire avec notamment ces riades qui sont typiques de la ville.
Absolument, c'est des riades en étage. En général, les riades sont souvent sur un seul niveau ou au maximum 2 niveaux. Là, on peut tomber sur des riades à 3-4 niveaux. C'est assez typique d'Essaouira avec cette pierre qui est sublime, cette pierre ocre jaune qui est magnifique.
Ouais, avec une couleur sable aussi parfois.
Oui, tout à fait.
Et des différents tons comme ça qui s'orientent vers le beige, vers le jaune. La Médina où nous sommes ici, on domine un petit peu finalement parce qu'on est un peu en hauteur. La Médina classée depuis 2001 au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Exact.
Voilà, on arrive à l'endroit où vous vouliez nous emmener. Je commence à comprendre au fur et à mesure qu'on monte.
Mais oui, parce que là, on se retrouve dans Othello, non? Parce que tous les tournages, quand Orson Welles, il est venu en 47 au Maroc. Il a suivi une comtesse italienne. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, il était marié avec Rita Hayworth. Mais il est tombé amoureux d'une comtesse italienne qui l'a amené à Marrakech. Et à Marrakech, il n'a pas aimé la ville. Et on lui a conseillé ce lieu, Essaouira, qui était à l'époque à quelques heures de Marrakech. Et il est arrivé, il est tombé amoureux de cet endroit.
Alors, c'est incroyable parce que de part et d'autre, à gauche comme à droite, on a la mer. On a la mer, on a des îlots, on a des rochers, on a des dunes de sable face à nous. Et c'est vrai qu'avec ces fortifications typiques, hein, puisqu'on est sur la géométrie classique, hein, des parois fortifiées, des murs fortifiés, avec, comme vous le savez, eh bien, ces murs échancrés comme ça.
Orson Welles, quand il est arrivé, il venait de divorcer avec les studios hollywoodiens qui l'ont lâché. Il devait faire le tournage d'Othello à Chypre. Et finalement, il a retrouvé Chypre un peu ici. Il a retrouvé et il a décidé de faire le tournage de son film dans ce lieu. Il s'est retrouvé ici avec une équipe de tournage de 50 personnes et il n'avait pas un rond. il n'avait pas un rond. Et il s'est dit, voilà, le tournage qui devait durer quelques semaines a pris 3 ans.
3 ans.
Mais 3 ans, et toute la ville a fait solidarité avec lui. C'est-à-dire, il n'avait pas les costumes. Alors pour fabriquer les costumes, il était voir les faire ailleurs. Il leur a montré des images des armures d'autrefois. Et avec les boîtes de sardines, ils ont fait les armures. Il a demandé au tailleur juif de lui faire les bures. Il a commencé son tournage, mais vraiment avec 3 fois rien.
Voilà, là on est dans un espace qui est circulaire. Et on a ces fameux canons qui sont aussi représentatifs et emblématiques des fortifications des villes françaises. Et c'est une ville très francophone, Essaouira.
Oui,
par l'architecture, même s'il y a les riads typiques qu'on trouve qu'ici, et aussi par la population qui est très axée sur la langue française. Tout le monde parle au moins un peu français ici.
Absolument, absolument. Et Essaouira, c'est la seule ville dans le monde arabe où à l'époque il y avait une majorité de juifs. Plus que les musulmans, il y avait, à l'époque, il y avait 22 000 personnes au temps d'Orson Welles. Il y avait 15 000 juifs et 6 000 musulmans. Et ça marchait très bien. Et c'est-à-dire que c'est un truc unique dans le monde arabe.
On s'approche d'artistes ici, dans ce domaine de la Scala à Essaouira. Beaucoup d'artistes qui jalonnent comme cela les rues et qui viennent jouer devant un public réduit mais toujours présent. Vous êtes un passionné de culture, Mahi Binbin. Il faut savoir qu'on vous connaît en tant qu'écrivain avec ce livre paru aux éditions Stock. Vous avez publié plusieurs romans d'ailleurs. Mais vous êtes aussi l'un des peintres les plus connus ici au Maroc. Même le roi a des toiles de vous. Et c'est finalement par la culture que vous êtes arrivé à changer finalement votre vie. Puisque dans Le Fou du Roi, vous racontez la difficulté qu'a eu votre père, courtisan du roi, qui a dû abandonner sa famille. Vous critiquez d'ailleurs le roi de l'époque, vous critiquez aussi tout ce qui s'est passé, toutes les souffrances que vous avez connues, mais vous en êtes sorti grâce à la culture, non ?
Absolument, absolument. La culture a été salutaire pour moi et pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que, avec le metteur en scène qui a adapté mon bouquin Les étoiles de Sidi Moumen, nous avons ouvert des centres culturels dans les bidonvilles. Nous avons ouvert un premier centre culturel à Casablanca, qui accueille 1000 enfants quand même, et un autre centre à Tanger. Et là, on est en train d'en ouvrir 3 autres, à Fès, Safi et Agadir. C'est-à-dire, la seule façon de sauver ce pays, c'est éduquer les gens, éduquer les gamins. Donc, ce qui m'a sauvé, j'essaye de sauver les autres.
Bon, on va passer de l'autre côté, là, parce qu'il y a beaucoup de vent. Il faut savoir qu'à Essaouira, un peu comme à Saint-Malo d'ailleurs, il y a du vent que vous entendez derrière nous.
Maintenant, ils viennent de faire, comment il s'appelle, le truc américain encore, Game of Thrones.
Ah oui, Game of Thrones.
Ils ont fait encore ici un tournage. C'est un lieu qui se prête à ça, hein.
Ah mais complètement, on est vraiment dans des ruelles comme ça qui sont absolument charmantes, mais plus que ça, parce qu'il y a une vie ici, il y a une atmosphère. À Essaouira, il y a quelque chose de très particulier. On a l'impression d'être un peu hors du temps et hors du monde, dans un pays qu'on n'imaginait pas.
Absolument. Et les hommes et les femmes ont une certaine dignité qu'ont pas, par exemple, les gens de Marrakech. Ils sautent sur les touristes. Là, ils ne sautent pas sur toi.
Et puis, c'est la ville des chats. Il faut savoir qu'il y a des chats partout.
Absolument.
Qui sont dans des positions parfois assez étonnantes.
Assez curieuses, hein.
Même les Marocains les prennent en photo parce qu'on a l'impression que ce sont les pachas de la ville. Et qu'il s'humanise un petit peu.
C'est une ville où il y a des sardines.
Oui, c'est ça, il y a des sardines pas loin.
Il y a des sardines à côté, donc ils ont la belle ville, là, les chats d'Essaouira.
Merci beaucoup, Mahi, pour cette balade ici dans la Médina, avec des lieux qu'on n'imaginait pas à Essaouira et qu'on a découvert grâce à vous. Le Fou du Roi est paru aux éditions Stock, à suivre dans la librairie francophone estivale. Un reportage sur la musique gnawa avec le Mahalem Abdelslam Ali Khan. Avant cela, voici le BIM, le Bénin International Musical. Bel été à tous sur votre radio francophone. À bientôt, Mahi Binbin.
Merci.
C'était BIM avec un extrait de The Bénin Atmosphère sur France Inter, la RTBF, Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Louisa Babassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'Institut français ici à Essaouira. Et c'est un institut très récent devant lequel nous sommes, mais qui est magnifique. C'est dans un riad aménagé.
Oui, l'Institut français est récent puisqu'il a été repris dans le réseau des instituts français du Maroc. Depuis 2014, il existait auparavant, c'était une alliance franco-marocaine depuis 2004.
Donc il y a plein d'événements ici, en ce moment des conférences, il y a une bibliothèque magnifique, une salle d'exposition. Cela permet de promouvoir la culture francophone d'une façon générale ?
Oui, tout à fait. Nous œuvrons pour la promotion de la culture francophone sous toutes ses formes, littérature francophone, expositions, concerts, toutes les activités linguistiques liées à la langue française.
Et on va se déplacer juste à côté, au coin de la rue, où il y a un maître de la musique gnawa qui nous attend. Merci beaucoup, Louisa Babassi.
Je vous remercie.
Et chaque été, le festival d'Essaouira Gnawa Musique du Monde rassemble des artistes et crée des rencontres. Le Maalem Abdelslam Ali Khan, cofondateur du festival et directeur artistique, est avec nous dans un autre lieu d'Essaouira. Bonjour Abdelslam Ali Khan.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ici à Essaouira, au cœur de la Médina également.
Oui, bienvenue. On est content de vous voir ici à Essaouira.
Alors, où sommes-nous là exactement ?
On est devant une maison où on fait des concerts intimes, des concerts acoustiques. Mais là, maintenant, il y a un atelier de percussion et de castanière, de karakab.
On va entrer voir ce qu'ils font. D'accord. Et après, vous nous expliquerez qu'est-ce qu'un maalem, puisque vous êtes un maalem, un maître. Et on expliquera quel est votre rôle. On va déjà aller voir ce qu'ils font. Allez, on a des tapis partout. Donc là, c'est une initiation quelque part.
Oui, ça c'est un atelier pour apprendre la musique gnawa, pour apprendre le rythme des karakab, des castagnettes.
Donc il y a des instruments traditionnels, des instruments incontournables pour la musique gnawa.
Parce qu'on a deux instruments dans la musique gnawa. Il y a le gembri, qui se joue avec les cordes, et c'est un gembri, une sorte d'instrument basse. Et les castagnettes, c'est les karakab.
Alors ici à Essaouira, il y a beaucoup d'ateliers sur la musique gnawa, parce que c'est l'un des berceaux au Maroc de cette musique-là.
Oui, c'est la source des gnawa, traditionnelle et des patrimoines, parce qu'il n'y a pas que les gnawa.
Oui, c'est le patrimoine aussi.
Ouais.
Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est un maalem ? Vous êtes maalem vous-même et vous êtes très respecté, on l'a vu.
C'est l'entourage qui te dit maalem. Parce que avant la musique et avant la connaissance et avant le métier, il y a la première chose, il y a le respect. Parce que c'est un rituel, c'est quelque chose de religieux. Parce que les gens, ils font pas les lilas pour s'amuser ou pour danser. Il y a des maladies, il y a des cas, il y a des gens qui font la transe et tout ça.
Oui, c'est-à-dire que c'est une musique aussi de transe.
Oui.
Et une musique un peu spirituelle aussi, qui peut guérir les âmes et qui peut aller au-delà. Ça, cette guérison de l'âme à travers la musique... Elle peut guérir le corps aussi, vous avez eu ces exemples-là ? Vous avez guéri des personnes, vous ?
Oui, on a plein de, d'exemples, on a plein de choses qu'ils ont... Il y a des gens qui ont passé dans les scanners, ils ont passé dans beaucoup de choses, ils ont arrivé à se soulager et de se guérir avec Gnawa.
On va aller voir une maison, parce qu'il y a 30 maisons de musiciens gnawa, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
On va en voir une.
On peut aller.
Allez, on va en voir une. Et pendant qu'on y va, à travers ces rues, ici de la Médina des Sawira, juste un mot sur les gnawa, Abdel Samer Ikane. Les gnawa, il y a des racines africaines avec les esclaves africains. Il y a toute une histoire qui lie finalement tout le continent africain au travers de cette musique.
Oui, la ville de Sawira, c'est une ville, c'est une ancienne ville. Il y avait le port parce qu'il a été la capitale, oui. La capitale du Maroc. Il y avait les esclaves, il y avait les gens qui sont venus parce qu'il a été dans la région de Sawira, une grande usine, et parmi les premières usines dans le monde du sucre. Qui a été là.
Avec les caravanes africaines,
ouais.
Qui venaient avec les épices, avec l'or. Et du coup, il y a des Africains qui sont arrivés là et des esclaves.
Ouais.
Et c'est eux qui ont commencé finalement à initier une musique.
Oui, ils ont arrivé avec ça. C'est un mélange entre les ethnies africaines et la culture africaine avec la culture marocaine.
Voilà, on est arrivé dans ces maisons gnawi qui sont situées au même endroit. En fait, elles sont rassemblées.
Oui, il y a les gnawa de Tanger, de Fès, de Meknès, de Agadir, de Rabat, de partout. Ils se rassemblent ici et chaque fois, eux aussi, ils font leur festivité dans ces maisons, dans des petites cours ici, tout ça.
Ouais, on a vu des maisons qui sont carrées en fait et qui sont mitoyennes.
Ouais.
Donc tout le monde est ensemble, il y a une cour intérieure.
Ouais.
C'est une sorte de résidence d'artiste, quoi.
Ouais. C'est comme ça, c'est une sorte de résidence d'artiste.
Sauf qu'il y a autre chose. Il y a une dimension spirituelle, une dimension d'échange, de partage aussi, surtout.
Oui, ce monsieur, c'est un mellem. Ouais. Il est venu de Kaza. Il est fils d'un grand, grand mellem. Celui-là, c'est le mellem Abdelrahim ben Abdelkader ben Tami.
On va écouter le gembré, c'est ça?
Oui, le gembré.
Magnifique instrument, ouais. Tout en bois avec des ornements en métal.
Ouais, c'est la main. Oh là, c'est. Oh là, t'as tient. Oh, gembré,
gada. Ils insistent, qui va jouer? Alors là, du coup, c'est. On va terminer sur cette musique. Merci beaucoup, Abdeslam Ali Khan.
Ouais, merci à vous aussi.
Merci, merci de nous avoir reçus ici. Nous allons quitter ces maisons gnawi ici à Essaouira pour aller cette fois au cœur de la Médina, sur le toit d'un riad, pour notre séquence Le Club Francophone et une rencontre exceptionnelle entre un autre maître de la musique gnawa, le Maalem Hassan Boussou, que vous connaissez bien sûr, et la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, qui a donné un concert ici au bord de la mer sur la grande scène du festival Gnawa Musique du Monde devant des milliers de personnes. Nous sommes à Essaouira cette semaine, au Maroc, pour ce programme spécial. Et on fait un détour tout de suite par nos studios avec la Québécoise Safia Nolin et un titre acoustique enregistré pour la librairie francophone. Merci beaucoup, merci à vous.
J'hallucine. perdu le raccourci qui mène à la gueule de ma tête à l'agonie. Qui te voit entre en moi comme une arme au cœur de naufrage. Entre en roi comme si tu voulais me faire taire. Le cœur est tombé, je suis lucide. Les rôles ont changé, tout est acide. L'erreur a suspens, l'amour sera blanc. Le cœur est tombé, j'hallucine. Le cœur est tombé, j'hallucine.
C'était la québécoise Safia Nolin avec Acide dans une version acoustique inédite dans les studios de la librairie francophone.
Les médias francophones publics. RTBF.
Ici Radio-Canada.
France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Nous sommes sur la terrasse d'un riad ici à Essaouira, au cœur de la Médina, pour une rencontre exceptionnelle entre la chanteuse malienne Fatoumata Diawara et le maalem Hassan Boussou, originaire de Casablanca. Bonjour Fatoumata Diawara.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Super bien.
Ça a l'air. Je suis ravi de vous retrouver ici. Bonjour Hassan Boussou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des pionniers de l'exportation de la musique gnawa. On en sait plus sur la musique gnawa grâce au reportage que l'on vient d'entendre. Mais cette musique gnawa, elle continue à vivre, vous dites, grâce au métissage, avec des artistes comme Fatoumata Diawara, par exemple, on va en parler, mais aussi avec des sonorités occidentales.
Oui, ben c'est tout à fait. C'est grâce à ces festivals comme le festival de Gnawa et Musique du Monde, c'est grâce à d'autres événements qui se passent heureusement maintenant de plus en plus au Maroc, dans tout le Maroc. C'est grâce à ça que cette culture et cette tradition revit et s'est ouverte sur le monde entier. Maintenant, le Gnawa, on l'entend partout et c'est accès à tout le monde parce que c'est une musique apprenante, quoi.
Alors tous les deux, vous enrichissez votre musique grâce au voyage, grâce à la fusion des genres. Vous, Fatoumata, avec Mathieu Chédid, que vous avez accompagné et qui coproduit d'ailleurs votre deuxième album, sorti il y a quelques semaines. Ce sont les rencontres qui favorisent vos créations. Ça a toujours été ça pour vous?
Oui, j'avoue que je suis l'une des chanteuses maliennes, ouais, qui en a fait une spécialité, on va dire, parce que j'ai presque une dizaine d'albums sur le marché. Et en collaboration, et à mon nom, il n'y a que le deuxième là qui vient de sortir, coproduit par Mathieu. Non, j'aime bien les collaborations, j'aime le partage et j'aime la générosité. Parce que je sens aussi qu'il y a une place féminine à occuper dans le marché de l'industrie de la musique. Et ce qui fait que j'essaie d'occuper cette place-là, parce qu'on est complémentaires. Hein.
Il faut enrichir le son. Alors là, ici à Essaouira, sur cette terrasse, ce sont les goélands qui enrichissent notre son en ce moment même. Mais vous, Hassan Boussou, vous avez collaboré avec Didier Lockwood, par exemple, avec Tony Allen, avec Wendy Weston, grande figure du jazz. A priori, ce sont des univers opposés, sauf que même s'ils sont différents, quand on les croise, il se passe quelque chose.
Bah justement, le secret, c'est dans la musique gnawa. La musique du gnawa, c'est des origines africaines, c'est l'origine de tout et de tout le monde, en fait. Et voilà, c'est une musique, comme disaient mon père et les ancêtres, c'est une musique mère, comme on dit, comme le jazz, le blues, c'est quelque chose qui vient de l'homme, de lui-même, de nous-mêmes. Donc, c'est une musique qui tape dans le cœur et qui touche les âmes. Et c'est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de cadenas, comme on dit.
Pas de cadenas. Elle vous touche cette musique, Fatoumata Diawara?
Moi beaucoup.
Par ses origines?
Oui, par ses origines. Et puis nous avons encore cette musique au Mali. La musique gnawa, elle est l'équivalent de la musique qu'on entend chez les donso. Et c'est les chasseurs en Bambara, voilà. Et c'est une chanson, c'est une musique qui est restée très mystique hein, chez nous. Hein. C'est pas une femme ne devient pas donso, par exemple. Voilà, un chanteur donso, quand il commence, il te dit une femme ne peut pas être donso. Donc pour te dire que c'est la musique des guerriers. Et donc guerrier qui dit guerrier dit guérisseur en même temps. Donc c'est la musique qui guérit et qui est aussi faite pour les hommes forts pour pouvoir guérir voilà les âmes.
Mais alors vous, Fatoumata, quand vous avez quitté le Mali pour, je crois, le Vietnam dans un premier temps,
oui.
Pour la France aussi, afin d'intégrer la troupe royale de luxe, mmh. Magnifique troupe de théâtre de rue, avec des spectacles incroyables, c'était une renaissance, est-ce que vous cherchiez? L'inconnu ne vous a jamais fait peur, vous?
À l'époque, l'inconnu me faisait peur, mais après cette expérience, ouais, j'ai senti que je suis devenue animale après. Il n'y avait plus rien qui me faisait peur.
Une guerrière, justement.
Voilà. On va dire qu'à l'âge de 20 ans, j'avais 19 ans, j'allais sur mes 20 ans. Et j'ai fait une renaissance, ouais, effectivement. Parce qu'après ce voyage, de partir un soir comme ça, de la famille, une femme, parce que c'était pas l'immigration normale, comme là, les jeunes vont. À l'époque, tu partais pas comme ça. Une femme ne pouvait pas se lever et partir comme ça. Et même aujourd'hui, quand ils partent en équipe. Il y a un ami avec qui tu parles avant de t'aventurer, d'aller, voilà, sur le désert et tout ça. Moi, je suis partie toute seule avec la complicité, justement, de ce papa spirituel, qui est Jean-Luc Krokroult, qui m'a vraiment fait confiance et qui m'avait dit une phrase à l'époque, qui m'avait dit, genre, pour pouvoir écrire ta propre histoire, il faudra créer ton propre stylo. Mais une phrase qui a changé, bouleversé toute ma vie.
Vous dites, on ne peut pas devenir fort sans être sensible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous?
Ben, cela, moi, c'est mon cas, hein, parce que je ris de tout et je pleure de tout.
Ouais.
Je peux descendre, là, sortir dehors et voir quelqu'un dans la rue et m'effondre. C'est que tout peut se renverser très rapidement avec moi. C'est que tout est à fleur de peau. Mais à la fois, les hommes avec qui je travaille me disent que je ne suis pas une femme. Donc, c'est paradoxal. Par rapport à ma réaction, ma façon d'agir et de décider les choses, je sais ce que je veux, quoi. Et parfois, en fait, tout est lié. Donc, c'est ma sensibilité qui me pousse à réagir, à agir instinctivement. Et parfois, voilà, j'arrive à au moins m'occuper de ma propre histoire, qui est l'histoire de la musique, et pouvoir faire avancer les choses. Mais j'ai retrouvé la même chose chez Mathieu. Il vit avec l'instinct.
Avec M, ouais.
Oui, M, ouais.
Ouais, il est comme ça, oui, c'est vrai.
Fait tout.
Ouais, ouais.
Sur scène, il peut changer tout.
Ouais.
Et c'est naturel chez lui, et c'est très important.
La musique gnawa, c'est aussi ça, Hassan Boussou, parce que c'est la force et la sensibilité mélangées. Il y a une sorte de transe et c'est cette philosophie-là.
Cette philosophie, c'est la musique gnawa, c'est pareil, comme disait Fatoumata. On ne peut pas être fort si on n'est pas sensible. C'est la sensibilité, c'est la fragilité aussi qui amène à devenir quelqu'un de personnalité, de quelqu'un de fort, quelqu'un qui prend des décisions dans la vie. C'est pas facile de prendre des décisions tout le temps. Hein. C'est pas évident, hein, parce que des fois, c'est la chance aussi qui danse, quoi. Mais voilà, mais la musique gnawa, et pour moi aussi, la musique gnawa, c'est cette philosophie-là, c'est cette vision de la vie, c'est cette. Voilà, c'est cet univers, quoi.
Fatoumata Diawara, cette force, on la retrouve évidemment dans tout votre parcours, hein, en fait, avec vos collaborations, et puis surtout Oumou Sangaré, qui a beaucoup compté pour vous, Cheikh Tidiane Seck aussi, parce que ce sont eux qui vous ont mis sur le devant de la scène à un moment. Être ici à Essaouira, Fatoumata, croiser comme ça votre musique avec celle des artistes gnawa, c'est dans la logique des choses. Tout
moi,
est logique.
Ouais, pour moi, c'est totalement logique et c'est totalement normal.
Alors, dans la librairie francophone, vous le savez, on est très attaché au texte. Fatoumata, sur votre nouvel album, il est question des migrants. Dans la chanson d'ailleurs que nous allons entendre juste après cet entretien, Ntérini, vous incitez aussi les jeunes à s'unir. Vous souhaitez que les enfants se donnent la main dans Négué Négué. Vous parlez du respect dans Bonia et vos textes, je me suis aperçu en fait qu'ils sont très humanistes, très portés vers un idéal.
Oui, ça, je pense que ça c'est dû peut-être à ma féminité parce que je sens l'obligation d'être la voix des sans-voix, de pouvoir améliorer les choses pour les jeunes africains et de voir comment est-ce qu'on peut avoir des débats, des conversations à travers la musique pour pouvoir nous améliorer, être fiers de nous, de nous accepter et d'aimer ce continent qui nous aime tant que ça et qu'il est temps qu'on soit fiers de ce continent, qu'on profite de notre diversité et qu'on en fasse une force et non une défaite. Et pour cela, du coup, dans mon texte, on va parler de respect parce que quand tu respectes quelqu'un qui est différent de toi, c'est de te respecter toi-même. Du coup, le combat mondial, c'est de se battre pour notre couleur. T'es différent, je suis différent, c'est la cause principale aujourd'hui de la guerre mondiale. Alors qu'on pouvait juste dire, bon, on est différent, depuis la nuit du temps, on se bat pour cela, ça n'a rien changé. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances pour rien. Nul n'est parfait et nul ne sera dans ce monde pour à jamais. Et qu'on se batte pour l'écologie, parce que la planète est en danger. De non, arrêtons de jeter des plastiques dans les fleuves ou dans la mer. La nature a besoin, n'arrête pas de nous faire signe là. Elle a besoin de nous, que ses enfants se retournent vers cette nature qui est nous d'ailleurs. Ça nous représente, hein, c'est notre miroir. Ça reflète notre âme, hein, la nature. Mais il faut qu'on la soigne, cette nature-là. C'est une bonne guerre pour moi. Si on fait une guerre mondiale pour le pays le mieux soigné au niveau écologique, ouais. Moi je dirais là, on est dans la bonne direction.
Vous militez hein, tous les deux d'ailleurs, hein, Fatoumata Hassan Boussou et vous Fatoumata Diawara, pour finalement préserver les cultures, les traditions du continent africain. Vous pensez que l'Afrique dans son ensemble perd ses références, perd ses repères culturels ?
Oh, pas vraiment, mais si on ne fait pas attention, oui, pour la génération future. Un exemple comme le Mali, ou pas que le Mali, hein, vous avez vu, il y a un style musical qui est le hip-hop, hein, qui se propage un peu partout en Afrique, ce qui est bien. Mais à la longue terme, on va peut-être ressembler aux Américains, alors qu'on ne sera jamais des Américains. Donc il y a quand même une vigilance et de se dire, ok, c'est l'une des peu de choses que nous avons aujourd'hui pour pouvoir nous unifier. Moi, je me reconnais, je suis au Maroc, je suis à la maison. Avec ces musiques ancestraux, on peut peut-être trouver une connexion et un lien et pouvoir unifier l'Afrique et pouvoir s'aimer et se dire, ok, au final, nous sommes les mêmes et qu'on puisse lâcher prise sur des guerres, des futilités, des histoires de pays ou de... Moi, j'aimerais qu'à la longue, qu'il n'y ait plus de pays en Afrique. C'est dur à dire, c'est vrai qu'on a une diversité inouïe, chaque pays a une force culturelle et sa différence, mais en même temps, on a tellement perdu du temps sur cette question de différence que je pense que là, il faut qu'on se dise, bon, il n'y a plus de frontières, on est tous africains, on aime l'Afrique et on la porte haut et fort, et commençons par la musique. On laisse ces femmes libres, c'est basique, et parfois il faut être basique, le monde a besoin de ça aujourd'hui. On est devenu trop superficiel, on est devenu trop compliqué. L'humain s'est complexifié, comment on dit, est devenu trop complexe, voilà, pour la nature, voilà.
Vous dites d'ailleurs, Fatoumata, nous sommes les gardiens de notre culture et de nos traditions, oui. Ce qui n'est pas faux. Alors, on va terminer justement avec une petite tradition dans ce club francophone. On vous a demandé de réfléchir à une plage et à une découverte culinaire qui vous ont subjugué un jour dans votre vie. On commence par vous, Hassan. Allez, la plage.
Ouais, la plage, moi j'étais en Guadeloupe, c'est la plus belle plage que j'ai vu jusqu'au là, maintenant.
Que qu'est-ce qu'on mange sur cette plage en Guadeloupe ?
En Guadeloupe,
ouais, qu'est-ce que vous mangeriez, vous, sur cette plage en Guadeloupe pour que ce soit l'idéal ?
Oui, moi, je suis trop... c'est lié à mon nom aussi, mes origines, les bouzous. C'est les pêcheurs, ils doivent. Donc, je suis un grand amateur du poisson. Donc, là, en Guadeloupe, je me suis régalé avec les langos et les bons poissons que rarement on peut avoir ici au Maroc. Quoi.
Bien, Fatoumata Diawara, ouais, la plage.
C'est peut-être la plage, ouais. Je suis allée une fois en Grèce. Je me suis retrouvée avec mon mari sur une plage où il n'y avait personne, il n'y avait que nous deux. Et c'est un endroit qu'on aimerait y retourner. Mais l'endroit que j'aime vraiment le plus aujourd'hui, qui me manque tout le temps, c'est il y a un baobab dans mon village. Un village que j'ai découvert très tard, justement après ce voyage à l'âge de 27 ans, et qui est devenu vraiment un endroit très spécial pour moi. Je vais toujours sous cet arbre-là, et ça me régénère, ça me ressource beaucoup. Et quand j'y vais, je mange le thau, hein. Le thau, c'est une espèce de purée à base de maïs. Ouais. Ça peut être aussi avec de la banane plantain. C'est tout ce qui est purée, quoi. Ouais. Et avec du gombo. Oh, c'est le plat le plus traditionnel. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de... Ça n'est... Quand le plat a été créé, il n'y avait pas tout cela. Il n'y a pas de cube magie.
Il faut arrêter avec les cubes magie, vous savez.
De l'eau et des légumes, basta. Vous voyez ce que je veux dire ? De l'eau et de la farine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement
healthy. C'est ça que vous aimez, vraiment ?
J'adore ça, moi. C'est le Moyen-Âge, tu sais. Ça me renvoie à mes ancêtres, la racine, tu sais. Comme tout le monde est sur le sky. On est tous dans le ciel. Ouais. Moi, je cherche la terre, là. Je suis à fond.
Là, c'est à fond.
Mais oui, là,
Voilà, moi, c'est simple.
Le couscous marocain.
Bon, merci beaucoup Hassan Boussou, merci Fatoumata Diawara, pour cette rencontre inédite ici à Essaouira, sur l'une des terrasses de la Médina, au sommet d'un riad. On entend la ville d'ailleurs s'animer derrière nous. Votre nouvel album Fatoumata Diawara Fanfo est sorti chez Wagram, et on va en écouter un extrait justement tout de suite. Voici une Ntérini dans la librairie francophone estivale. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Nkanu tara yorojana ale maso seima
Fatoumata Diawara, Ntérini sur votre radio francophone. On quitte Essaouira le temps d'un entretien passionnant à Paris chez Eric Orsena, et il est question des moustiques.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Eric Orsena est dans la librairie francophone cette semaine pour son livre Géopolitique du moustique, réalisé avec le docteur Isabelle de Saint-Aubin et paru aux éditions Fayard. Alors, le moustique est petit, et c'est souvent l'infiniment petit qui est le plus dangereux pour l'homme. Les bactéries, les particules dans l'air, et donc, un peu plus gros quand même, le moustique. L'avenir appartient au petit, Eric Orsena ?
Bien, écoutez, quand on se rend compte de la durée de vie du moustique, puisque le moustique existe depuis 250 millions d'années. Donc, on a vu que maintenant, les êtres humains, enfin humanoïdes, existent depuis 7 millions d'années, donc il existe depuis si longtemps. Pourquoi ça marche quand on est petit? Ça marche parce qu'on dépense beaucoup moins d'énergie, on peut habiter n'importe où, et surtout, la capacité du moustique, c'est de s'adapter à tout. Pourquoi il s'adapte à tout? C'est que nous, en un siècle, nous avons 4 générations, puisque c'est 25 ans. Et on voit à quel point nos enfants sont différents de nous. Ils sont un peu plus grands, mais beaucoup moins intelligents. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Alors que les moustiques, il y en a 7 à 8 par année. Ce qui fait qu'en un siècle, il y a 800 mutations. Et on s'étonne après que quand on leur balance des insecticides genre DDT, ils s'adaptent, ils résistent et il faut trouver autre chose.
Alors vous élargissez d'ailleurs votre analyse aux insectes. On a répertorié plus de 3 millions d'espèces d'insectes dans le monde et chaque année, nous en découvrons plus de 10 000. Et ils se reproduisent à une vitesse considérable. C'est aussi le cas du moustique qui a une vie sexuelle très épanoui et plutôt frénétique.
Mais ça dure très peu de temps pour être franc. Donc, il remplace par la frénésie et la faible durée une extension qui, j'espère, étant donné mon âge, peut durer assez longtemps. Mais ce qui est aussi fascinant dans cette petite bête dont j'ignorais tout, pour être franc, il y a 3 ans, c'est qu'elle a une première partie de la vie qui est aquatique. C'est pour ça que si on veut lutter contre les moustiques, la meilleure façon, c'est de détruire ce qu'on appelle les gîtes larvaires, c'est-à-dire les flaques d'eau, c'est-à-dire les coupelles où on peut mettre des fleurs, c'est-à-dire les canettes de bière, etc. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, et parfois un peu moins, hop, il devient nymphe et puis il devient vraiment moustique. Donc, il a une partie aquatique durant laquelle il nourrit tous ceux qui habitent dans l'eau. Et il sert d'ailleurs à purifier l'eau.
Il filtre 2 litres d'eau par jour.
Il filtre 2 litres d'eau par jour et il nourrit tous les batraciens, les grenouilles, tout ce qu'on peut imaginer de ça. Et puis à un moment donné, bon, il prend l'air et à ce moment-là, il va nourrir les oiseaux et il va pollinisser. C'est-à-dire les moustiques, c'est pas agréable d'avoir des moustiques tout au cours de la nuit et de se faire piquer par eux. Mais enfin, ils ont un vrai rôle utile.
Et vous nous démontrez le génie d'adaptation des insectes et des moustiques en particulier. Il sera impossible de les éradiquer, c'est ce qu'on vous explique, les scientifiques que vous avez interrogés. Et vous expliquez, vous, à travers ces témoignages, que ce n'est de toute façon pas souhaitable. Il n'est pas question de les éradiquer. Ce serait trop dangereux pour l'homme.
Alors vous savez, c'est toujours le rêve de l'être humain de maîtriser. De maîtriser sa vie, de maîtriser la nature, comme si les êtres humains avait le monopole de la vie. Ben, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce que, admettez que vous tuez les moustiques, ils ont une fonction. Qui remplace cette fonction? Et puis, si vous supprimez les moustiques qui accueillent les parasites ou les virus, les parasites et les virus vont trouver d'autres porteurs. Il y aura des interactions. Donc, on va créer des monstres. Et en plus, en général, quand on veut éradiquer, c'est par manipulation génétique. Et si on développe par manipulation génétique, on sait bien que la génétique, parfois, il y a des ratés. On le voit bien dans l'espèce humaine, hélas. Et surtout, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, vous voyez, après avoir fait une grande enquête, c'est pas mon opinion, c'est l'opinion de la majorité des scientifiques, les contrôler, oui, éradiquer, non.
Le moustique tue quand même 750 000 hommes par an. Les humains tuent, eux, 475 000 de leurs semblables.
Il y a en moyenne, il y a des fois où ils sont plus actifs.
Voilà, en fonction des guerres, en fonction des crimes, hein, tout est répertorié évidemment. Et ça, chaque année. Hein. Les chiens tuent, eux, quand même 25 000 hommes par an. Les serpents, 50 000
à cause de la rage.
Et les requins, 10. Le plus grand tueur de l'humanité, c'est donc le moustique.
C'est le moustique, en tout cas, c'est le complice des plus grands tueurs. Parce que c'est pas lui qui tue. C'est, encore une fois, soit le parasite, soit le virus qu'il porte. Et alors, il y a un parcours à l'intérieur du moustique qui est intéressant parce que quand le moustique vous prend du sang, et pourquoi il vous prend du sang, c'est d'abord, il faut savoir que c'est seulement la femelle du moustique qui prend du sang. Pourquoi elle prend du sang? Pas parce que c'est une méchante fille, pas du tout, c'est qu'elle a besoin de ce sang, parce que dans le sang, il y a des protéines, et sans cette protéine, elle pourrait pas développer ses œufs. Et donc, c'est une mère, c'est la mère qui vous pique. Donc, en piquant, Elle dépose dans votre sang, dans votre peau, de la salive. Pourquoi la salive? Parce que dans la salive, il y a un anticoagulant. Mais il n'y a pas seulement un anticoagulant, il y a justement les parasites et les virus. C'est pour ça qu'il y a 2 trombes dans la femelle moustique, un pour pomper et l'autre pour injecter cette salive dans laquelle il y a l'anticoagulant et en même temps les parasites.
Alors vous dites d'ailleurs, ce n'est pas la femme qui pique, c'est la mère. Vous en faites un peu beaucoup, hein, Eric Orsona, parce que vous dites même que le son qu'elle émet, c'est un appel à l'amour.
Je suis factuel, c'est-à-dire dans la nuit, quand vous avez des bzzz, c'est-à-dire c'est la femme là qui appelle à l'amour et que le mâle, d'abord il fait pas de bruit, ensuite il vit très peu de temps, il remplit sa fonction de reproduction et puis il a le bon goût de disparaître. Donc c'est pas lui qui crie à la lune pour essayer d'attendrir sa petite Juliette.
Bon, en tout cas, c'est inquiétant, hein, tout ce que vous racontez, parce que c'est très, très documenté avec ces reportages. On voyage à travers le monde, c'est un grand son du monde. On aime bien les sons du monde dans cette émission. C'est exactement ça. C'est ce qu'on ressent. Mais en même temps, on se demande ce qu'on peut dire quand même aux auditeurs de la librairie francophone qui nous écoutent beaucoup dans les Outre-mer et dans les pays d'Afrique qui sont envahis par ces insectes et touchés de plein fouet par ces maladies. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous ?
Je leur donne un chiffre, par exemple. On a divisé par deux le nombre des malades du paludisme en utilisant systématiquement des moustiquaires imprégnés de répulsifs. Donc on peut faire ça. Et on peut très bien supprimer les moustiques à la source, c'est-à-dire dans leur phase aquatique. C'est-à-dire si on fait attention dans son jardin de ne pas avoir de piscine mal entretenue, de jouets dans lesquels il y a un petit reste d'eau, eh bien, il y aura plus d'endroits où les dames moustiques pourront placer leurs œufs, et à ce moment-là, il n'y aura pas de moustiques. Donc on peut nettement diviser.
Peut-on imaginer, faut-il s'attendre à ça, que des maladies comme Zika et le chikungunya puissent toucher le sud de la France, déjà envahie par le moustique tigre, ou les bords du lac Léman, qui a aussi une contamination au moustique tigre, ou encore les campagnes du Québec, qui ont ce moustique?
Alors, évidemment, on peut envisager ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la moindre nouvelle d'une contamination, pour le soigner immédiatement le plus possible, premièrement. Et deuxièmement, il faut connaître les habitudes de ces animaux. C'est pour ça que ce livre est fait pour saluer les chercheurs, qu'on appelle les entomologistes médicaux. Et alors que, comme on fait trop confiance aux médicaments, comme d'habitude, on a toujours, l'être humain, l'idée qu'on va trouver un jour un type de médicament qui sera valable pour tout le monde, partout et tout le temps. On voit ce qui se passe avec les antibiotiques. C'est-à-dire, la vie répond à la vie. C'est ça ce que j'ai appris. Moi, vous savez, je suis un économiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une formation assez nulle, pour être franc. C'est-à-dire assez limitée. Mais c'est la première fois que je plonge dans les mécanismes de la vie et je dis, nous n'avons pas le monopole de la vie. C'est pour ça que notre planète n'est pas une planète entre les dominateurs et les esclaves. Notre planète est une planète d'associés.
Alors c'est très étonnant parce que ces maladies, elles apparaissent, elles disparaissent. Et ça, vous l'expliquez très bien, Zika, ce n'est pas nouveau. Cette maladie est apparue bien avant, des années avant. Et puis en 2013, elle réapparaît à Tahiti, à Moréa et aux Marquises. Et tout le monde sur place est plus ou moins touché. Sauf que personne s'en est inquiété parce qu'il n'y avait pas de conséquences a priori.
Non, parce qu'il y a des formes de maladies qui changent beaucoup, comme la dengue, il y en a 4, comme de toutes sortes de chikungunya, il y en a différentes. C'est-à-dire que, encore une fois, la vie, ça s'adapte sans arrêt. Les virus s'adaptent, il y en a qui sont parfois un peu plus virulents, il y en a d'autres qui sont moins virulents, et puis ça change tout le temps. C'est pour ça que c'est si difficile de trouver des vaccins, notamment pour le paludisme, c'est qu'il y a des formes très très diverses. Et donc c'est la nécessité de jamais couper les crédits de la recherche.
Bien, terminons avec les peaux à moustiques. Buvez-vous de la bière, Eric Orsena ?
Alors, de moins en moins quand je suis dans les régions tropicales, puisque les moustiques aiment la bière. Alors, les peaux à moustiques. Alors, on me pose toujours la question de la peau à moustique. Alors, il se trouve que le moustique, il est attiré principalement par le CO2 que nous émettons. C'est-à-dire quand vous et moi sommes enceintes, il y a une sorte d'accélération du métabolisme. Et donc, on produit plus de CO2. Quand on est malade, quand on a la fièvre, il y a un peu plus de CO2.
Et quand on a bu aussi.
Donc, quand on a bu un peu, il y a un peu plus de CO2. Et puis, il y a des odeurs. Alors, des odeurs, ça dépend des espèces en même temps. Comme disent les scientifiques, on leur pose une question, ils disent ça dépend. Donc, c'est énervant, mais c'est un peu comme ça. Et donc, la meilleure solution, c'est vraiment la moustiquaire imprégnée de répulsif. Parce que si vous n'avez pas imprégné la moustiquaire, le moustique, il attend tranquillement que vous sortiez pour aller pisser. Et on revient à cette situation. Plus vous avez bu, plus vous sortez et plus vous êtes piqué.
Et voilà, les dangers de l'alcool, aussi avec les moustiques.
Et je ne vous dis pas qu'en plus, vous avez un problème de prostate.
Ça, c'est un autre sujet. Je ferai peut-être un livre là-dessus, on verra.
Sur la prostate, j'aurais, si je puis dire, un marché captif chez les hommes de plus de 50 ans.
C'est ça. Merci beaucoup, Eric Orsena. On termine là-dessus, c'est étonnant. Bah, mais c'est ça la librairie francophone.
La prostate, c'est ça, oui. La mondialisation.
Mais c'est l'émission est libre.
Aucun sujet ne nous est étranger, car la francophonie, c'est la vie, il faut le savoir.
Exactement. Et on porte ça depuis 10 ans.
La librairie, c'est ce qui permet d'accroître la vie.
Exactement. On est raccord, tout va bien. Géopolitique du moustique est paru aux éditions Fayard. Lisez ce livre, c'est l'un des plus passionnants que nous avons lu cette année, vraiment. Et en plus, il vous fera voyager à travers le monde. Merci beaucoup, Eric.
C'est moi.
Et c'est la fin de cette édition ici à Essaouira, sur une place de la Médina, avec des musiciens gnawa tout près de nous et tout de blanc vêtus avec des babouches jaunes qui jouent face à un public nombreux. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous, à la rédaction Jean-Philippe Véré de France Inter ici à Essaouira, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada et de RFI. Merci à toute l'équipe du festival Gnawa et Musique du Monde d'Essaouira. La semaine prochaine, le grand voyage continue. Nous serons à Beyrouth avec la grande poétesse Vénus Kourigata, sur les remparts de Saint-Malo avec Yann Kefelek, avec le groupe Trio pour le club francophone, et aussi avec Atik Raimi, Jean-Christophe Ruffin et Jean-François Bernardini du groupe corse Imouvrigne. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.